sur Via 95. C'est le parc en 30 minutes. L'actualité et le déploiement du parc industriel et portuaire de Bécancour. Et on répond à vos questions. Tout ça en 30 minutes. Voici Marc Rochette.
Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Le Parc en 30 minutes qui est présentée en collaboration avec la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, communément appelée la SPIB. Et encore cette semaine, j'ai le plaisir de retrouver son président-directeur général, Donald Olivier. Bonjour Donald.
Bonjour Marc.
Alors, nous avons et nous aurons possiblement peut-être un invité tantôt en studio. On est en attente de son arrivée, mais quand même, d'ici là, ben, on invite les gens à nous contacter. Et on va le présenter plus tard si effectivement il peut nous arriver à temps, comme on dit au Québec. Donc, je tiens à rappeler aux auditeurs et auditrices qu'il est possible de poser vos questions en allant tout simplement sur le site via.fm, onglet Le Parc en 30 minutes, et en cliquant sur « Poser vos questions ». Ou vous pouvez vous transmettre vos questions. Profitez-en avec Donald Olivier, semaine après semaine, par texto, par téléphone, 819-519-9050, 819-519-9050. Alors, on va en profiter... Étant donné que notre invité n'est pas arrivé en studio, Donald, on va faire comme à l'habitude, y aller avec le retour sur l'actualité. Donc, on prendra le temps vraiment de voir ce qui s'est passé dans les derniers jours, dernières semaines aussi, depuis notre dernière émission en direct. Alors, peut-être parler de Canada et Forge, parce que, bon, vendre du terrain, on sait quand même, c'est une usine qui a eu des difficultés, puis peut-être nous retracer l'historique de cette histoire-là, le Canada Forge.
Oui, donc c'est ça qu'il y a quand même eu des soubresauts dans les dernières années. Hein. On se souvient, conflit de travail, par la suite, ils ont réussi à repartir l'usine, mais il y a eu un feu déclaré dans l'installation. Plus récemment, ils ont été placés sous séquestre. Donc, sous séquestre, c'est pas une bonne nouvelle. Donc, c'est comme l'équivalent d'un syndic qui doit prendre en charge les actifs pour être capable de rembourser les créanciers. Ce qui a été franchi comme étape, et ça a été mentionné dans les nouvelles par rapport à Nouveau Monde Graphite qui a acquis une portion. Donc, la portion qui est vraiment du côté ouest d'Alphonse Déhay, donc qui est adjacent au terrain que Nouveau Monde Graphite a déjà. Mm-hmm. Et puis, cette acquisition-là fait en sorte que Nouveau Monde Graphite ont un terrain adjacent au leur. Donc, le terrain devient plus grand. Devient plus facile à développer parce qu'il y a quand même déjà une zone développée. Ça fait que donc, on a l'autre côté un milieu boisé avec des milieux humides, alors que là, c'est asphalte, du gazon, un bâtiment.
Donc, le malheur des uns fait le bonheur des autres dans le cas de Nemaska par rapport à ça.
Oui, dans le cas de Nemaska, c'est sûr que ça dans le cas de Nouveau Monde Graphite,
Excuse-moi, oui. On est mêlés dans nos dossiers.
Ça commence par N, les deux. Je te pardonne, Marc, moi aussi, des fois, la langue me fourche avec les deux. Mais effectivement, ça lui permet de partir plus rapidement avec un projet avec en cours pour le raffinage de la transformation du graphite, parce qu'il y a déjà un bâtiment et tout ça. Donc, ça, c'est quand même intéressant, mais ce bâtiment-là, plusieurs personnes étaient aussi intéressées à l'acquérir ou à le louer parce qu'il y a quand même des bâtiments, des surfaces intéressantes. Fait que ça, c'est un bout de Canada. L'autre bout, l'autre usine, l'usine de production de l'autre côté, pour les gens qui ne savent pas trop ce que ça faisait, Canada, c'est des raccords pour les oléoducs. Mm-hmm. Donc, tous les projets d'oléoducs, des raccords, puis pas de 2-3 pouces, là, de 2-3 pieds. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment gigantesque. Et puis, l'entreprise qui a acheté la bâtisse et les équipements, c'est EasyFlow. C'est un compétiteur de Canada. Et puis, leur plan de match, c'est... de ce que j'en comprends, là, c'est de... Eux, les équipements vont les réutiliser dans leur centre de production. Donc, ils ont déjà des usines ailleurs en Amérique. Ils vont réutiliser ces équipements-là qui étaient dans les bâtiments de Canada Oil et ils vont probablement rendre disponible l'immeuble. Donc, le bâtiment, le terrain, de ce que j'en comprends, risque d'être éventuellement mis en vente. Et puis, c'est quand même intéressant dans le sens qu'il y a quand même beaucoup de projets... Des investisseurs qui viennent nous voir souvent à Bécancour, mais qui aimeraient être capables de partir rapidement. Et puis, quand tu pars d'un terrain naturel, donc même s'il est en zone industrielle, tu pars quand même d'un terrain naturel, tu as les études environnementales à faire, tu as des autorisations à aller chercher et tout ça, alors que quand tu as un site qui est déjà industriel, en anglais, là, puis j'ai pas trouvé de pendant là, français, mais un terrain greenfield, donc un terrain naturel, puis brownfield, ça veut dire qu'il y a déjà eu un usage industriel. Mm-hmm. Donc, ce genre d'opportunité-là, il y a quand même plusieurs entreprises qui sont intéressées parce qu'il y a déjà un terrain, déjà un bâtiment, fait que tu es capable de te mettre en action beaucoup plus vite. Fait que c'est un peu ce qui fait le tour de Canada Oil par rapport à où est-ce qu'ils en sont rendus pour la suite.
Quand les gens sont intéressés à venir démarrer quelque chose, soit dans des... l'infrastructure existante ou développer quelque chose, ils passent inévitablement par toi tôt ou tard?
On doit leur parler tôt ou tard parce que si c'est pas... Mettons, souvent, si c'est des projets nouveaux, ben il y a comme une transaction immobilière à faire. Donc, il y a un terrain qui doit être vendu et acheté. Et puis, la majorité des terrains appartiennent à la Société du Parc. Fait que donc, l'entreprise doit venir nous voir.
D'accord.
Mais même dans le cas de Canada Oil, admettons, ou même Nouveau-Mont-Graphite, c'est un bon exemple, c'est qu'ils ont acheté un terrain d'un autre privé, mais on n'est pas une ville, on n'est pas une municipalité. Fait que donc, tous les réseaux appartiennent à la Société du Parc. Fait que donc, ils doivent venir nous voir pour être sûr de qu'on comprenne bien ce qu'ils ont besoin en termes de quantité d'eau et tout ça pour les
infrastructures. Valider des informations.
Ben oui, parce que, tu sais, mettons, je ne veux pas perdre les gens dans les détails, mais exemple, la protection incendie, la plupart du temps, c'est fait avec de l'eau industrielle, non avec de l'eau potable, quels sont leurs besoins et tout ça. Fait que donc, c'est pas parce que tu as un terrain puis qu'il y a les réseaux de la Société du Parc dans la rue en avant que tu as le droit de te raccorder. Et puis, c'est pas nécessairement systématique qu'on aurait la capacité. On a quand même une bonne capacité. Fait que c'est comme, tôt ou tard, on parle à ces gens-là.
D'accord. Donc, Nouveau Monde Graphite, qui, bon, tant qu'à parler de cette entreprise-là, a quand même un prêt de 459 millions de dollars qui a été annoncé. Bonne nouvelle pour Nouveau Monde Graphite?
Ben, c'est une bonne nouvelle. Comme je dis de temps en temps, Nouveau Monde Graphite, ça avance toujours. Il y a toujours un pas qui se fait devant l'autre. Parfois, ça prend un peu plus de temps que ce qui était prévu, mais en tout cas, moi, j'ai pas souvenir que Nouveau Monde Graphite a reculé. Donc, ils avancent toujours sur une prochaine étape. Et puis là, l'étape qui est là, c'est vraiment le financement ou un appui financier de taille pour le projet, pour les projets de mine. Ça fait que donc, pour le projet de la mine à Saint-Michel-des-Saints, fait que c'est sûr que pour eux, c'est vraiment intéressant. Puis pour nous, ben c'est comme le début. Hein, tu sais? Donc, le début, c'est qu'on dit souvent que les minéraux critiques, c'est de partir de ces fameux minéraux critiques-là, de les transformer et puis après ça, de les valoriser. Bon, clairement, le graphite, pour l'instant, ça se passe juste en Chine. Fait que donc, là, il faut premièrement que le graphite sorte de terre, il faut qu'il soit extrait. Et pour ça que moi, je suis confiant de l'usine, que l'usine à Bécancour, ben, Nouveau Monde Graphite, évidemment, donne des signes positifs. Mais cette usine-là, tôt ou tard, devrait partir. On entend peut-être automne 2026, mais ça partira quand ce sera le bon moment. T'sais, j'ai mieux un projet qui franchit les étapes, peut-être un peu plus lentement, mais qui recule jamais, qu'un qui vit des difficultés. Fait que donc, c'est à suivre, mais c'est quand même positif.
Mais ça pourrait aller aussi vite que cet automne?
Ben, ils ont déjà coupé des arbres sur le terrain l'an passé. Donc, de mémoire, c'est automne 2024. Oh. Donc, ils veulent faire feu. Et puis, tant qu'à moi, l'acquisition de la portion de terrain de Canada, il va juste leur permettre d'aller plus rapidement et peut-être de phaser leur projet. Ça fait que donc, c'est vraiment de bon augure. Puis, il faut que les gens comprennent que le graphite qui est contenu dans des batteries ou dans d'autres applications, la majeure partie, je pense, c'est exclusivement, ça vient tout de la Chine. Donc, clairement, Nouveau Monde Graphite n'extraira pas du graphite à Saint-Michel-des-Saints pour le mettre sur des bateaux pour être transformé en Chine. C'est pour ça que le projet...
Les deux vont être coordonnés.
Oui, ben, c'est de la mine à l'usine. Donc, de la mine à l'usine. Fait que donc, il faut que la mine soit en opération. Puis c'est normal que l'argent et les efforts soient mis là d'abord. Et puis par la suite, il y aura l'usine. Puis, tu sais, je tiens à rappeler Éric Desaunier, qui est le PDG de Nouveau Monde Graphite. Là, tu sais, c'est le fun parce que ben, c'est un Québécois. C'est un géologue qui a survolé la vallée du Saint-Laurent, je pense que c'est 2012-13-14, puis qui a trouvé un gisement de graphite. Et puis aujourd'hui, on voit où ça nous mène. Fait que, tu sais, donc, parfois, on se dit, ouais, ce serait le fun. Il y a des entreprises, des multinationales qui arrivent, puis on aimerait avoir plus d'entreprises québécoises. Mais là, c'est une entreprise qui c'est une initiative d'un Québécois pur laine, donc Éric Desaunier, puis c'est vraiment intéressant de voir d'où ce projet-là est parti, puis où est-ce qu'il est rendu aujourd'hui.
Autre entreprise aussi importante dans le parc, dans les projets de la filière batterie, Nemaska Lithium, différents volets qu'on peut parler sur cette entreprise. D'abord, une annonce de Rio Tinto.
Ben, si on recule, admettons, à peu près à ce temps-ci, l'an passé, Rio Tinto annonçait qu'ils avaient fait une offre à Arcadium Lithium, parce que le projet tel qu'il a commencé à Bécancour en 2023, les deux actionnaires, c'était Arcadium Lithium et Investissement Québec. Donc là, ce qui s'est passé à peu près à ce temps-ci, l'an passé, c'est vraiment une offre d'achat de Rio Tinto pour acquérir la portion d'Arcadium. Et puis là, on se retrouve un an plus tard que c'est non seulement fait, mais Rio Tinto est majoritaire. Donc, pourquoi Rio Tinto est devenu majoritaire? C'est qu'un projet comme ça, un projet qui coûte des milliards, les investisseurs, les propriétaires ne déboursent pas au jour 1, ils déboursent progressivement. Et puis, Investissement Québec, Rio Tinto ou Arcadium avant déboursaient toujours des montants égaux. Fait que donc, ça veut dire que tu maintiens ton équité dans l'entreprise. Fait que donc, si on a une entreprise, tous les deux, Marc, on dit OK, on rajoute chacun 100 000 $ dans l'entreprise, tu avais 50 % j'avais 50 % de l'actionnariat, on maintient notre 50 % puis on devient à part égale encore. Ce qui est arrivé récemment, le gouvernement a annoncé que c'était sa dernière injection de fonds via Investissement Québec, dernière injection de fonds dans Nemaska Lithium. Ce qui fait que là, il y a eu une majorité qui est du côté de Rio Tinto. Fait que donc, Rio Tinto est majoritaire dans le projet de Nemaska Lithium. Et puis, ce qui s'est passé récemment, c'est Rio Tinto a pris le contrôle et puis, vous avez entendu, ça a été dit dans les médias, dépassement de coûts. C'est une façon de réagir à ce dépassement de coûts-là, d'être sûr de revenir sur la planche à dessin et de revoir un peu tout ce qui se passe. Fait que donc, n'importe quel citoyen va mieux comprendre. Tu as donné un contrat pour refaire ta maison, puis tu avais un budget de temps, puis là, le budget, tu vois que tu vas le doubler. C'est un peu normal de dire je prends un pas de recul, j'arrête une partie des opérations, et après ça, je vois comment je fais pour compléter. Ce qui est pas le fun dans cette nouvelle-là, c'est les dépassements de coûts. Parce que c'est pas propre à Nemaska Lithium ce qui est vécu en termes de dépassement de coûts. C'est vécu par beaucoup d'entreprises du parc. Nous, les projets d'infrastructure qu'on a fait, des routes, des rails, l'aqueduc, l'égout, des usines de traitement d'eau, les projets civils, on a pas mal respecté notre planification, le budget qu'on avait.
Mais c'est quoi votre recette, vous autres?
Je ne sais pas si c'est notre recette, Marc, ou le fait que c'est peut-être que quand on tombe dans des projets industriels, ou est-ce que c'est plus vaste en termes de tu sais, c'est plus compliqué une usine que de construire une route. Mais tu sais, quand c'est des projets civils d'excavation de béton, ça n'a pas trop dérapé, mais quand ça s'élargit, force est d'admettre qu'il n'y a pas juste Nemaska Lithium qui a eu des enjeux. Donc, leurs voisins, Ultium Cam, sont un peu dans ce mode-là aussi de se réviser. Et la majorité des entreprises ont eu des dépassements de coûts. Fait que donc, je pense que c'est normal pour un Rio Tinto de se repositionner. Et puis, les gens, des fois, on lit des trucs dans les journaux, on dit « OK, il n'y a plus de travailleurs. » Mais non, ils ont quand même gardé une bonne portion des équipes, là.
Donc, il y en a plusieurs qui sont partis, mais...
Oui, mais tu sais, c'est probablement encore le plus gros chantier.
Mais c'est bon de souligner que ça reste encore un gros chantier.
Tu sais, il y a un certain moment, on avait 3000 employés dans le parc. Ça a baissé, les projets avancent, puis il y a aussi ces temps-là de repositionnement qui sont là. Mais Nouveau Monde Graphite, c'est encore de l'ordre de 700 employés. Ça fait que donc, c'est probablement le plus gros chantier en Mauricie au centre du Québec encore. C'est plus gros, mais il est moins gros qu'il était il y a deux semaines. Mais
ça reste majeur quand même.
Ça reste majeur. Puis tu sais, vraiment, moi, je tiens à ce que les auditeurs comprennent qu'un Rio Tinto n'arrive pas dans un projet comme ça, comme un chien d'un jeu de quilles.
C'est un joueur crédible.
C'est un joueur crédible. Puis tu sais, avant d'acheter des parts dans une entreprise, il y a des revues diligentes qui se font. Fait qu'une revue diligente, pour les gens qui ne sont pas familiers avec le terme, là, c'est que moi, mettons, si je veux acheter ton entreprise, Marc, je vais dire, Marc, oui, je t'intéressais à peu près dans ces paramètres-là, mais je vais te demander d'ouvrir tes livres. Je vais vouloir aller prendre l'état de santé de ton entreprise, santé financière, santé de l'équipe que tu as en place et tout ça. Fait que donc, il faut que les gens comprennent que Rio Tinto, je suis convaincu qu'ils n'ont pas de surprise. T'sais, ils n'ont pas de surprise. Ils font des revues diligentes costaudes. Et puis, c'est juste qu'il y avait un événement, il y avait un dépassement de coûts et il fallait qu'il s'ajuste. Fait que donc, c'est ça qu'on voit là.
Avant d'aller à la pause, Donald, par rapport au dépassement de coûts, là, en général, dans les projets, on sait que, dans le passé, dans le parc industriel, il y avait eu d'autres projets à un moment donné, puis les délais avec le BAP et toutes sortes de choses. Quand on implique des délais, ça implique des dépassements de coûts. Donc, on dirait que parfois, c'est quasiment incontournable qu'il y ait des dépassements de coûts à cause des facteurs externes et internes, mais c'est pas problématique pour développer, que ce soit un parc industriel, développer des projets que de gérer ces fameux dépassements de coûts-là.
Écoute, c'est sûr que, mettons, les dépassements de coûts, c'est vrai qu'il y en a souvent, mais tu sais, mettons, des 5, 10, 15 %, on peut se convaincre que c'est normal, mais tu sais, c'est un ordre de grandeur de plus, là. Ordre de grandeur, ça veut dire que tu fais x2. Donc, ta maison de 200 000 va t'en coûter 400. On est ailleurs. Puis, tu sais, c'est comme pas évident de cerner. Comme je te disais, moi, sur les projets civils, on n'a pas vu ça. Mais pour les projets industriels, pratiquement toutes les entreprises du parc l'ont vécu. Puis, ce qui n'est pas le fun là-dedans, c'est que ça donne un signal pas nécessairement positif, tu sais, parce que faire des projets au Québec, tout le monde sait qu'on a de l'énergie verte la plus abordable en Amérique du Nord, mais sinon...
On a des atouts, là, quand même.
Oui, oui, mais là, les coûts de construction des projets deviennent un désavantage. Et puis ça, c'est vraiment, vraiment inquiétant. Puis c'est pas, tu sais, je tiens à dire aux gens, là, c'est pas propre à Bécancour. Hein. Tu sais, il y a d'autres projets industriels ailleurs. Et puis il y a un peu le même phénomène. Puis on pourra aller un peu plus loin peut-être dans ce qu'on pense qui est la cause. Mais c'est pas positif. T'sais. Puis ce qui est positif, admettons, c'est je sais pas si
le verre à moitié plein.
Je sais pas si on va à la pause bientôt.
Oui, oui, oui.
Mais Rio Tinto, ils connaissent la transformation des minéraux critiques. Mm-hmm. C'est pas des novices. Au contraire, c'est des gens qui sont très, très... expérimenter là-dedans. Et puis, leur désir de finaliser ce projet-là n'est pas... est là. Là, donc, c'est aucunement remis en question le projet de Bécancour. Donc, c'est une entreprise australienne qui veut vraiment finir ce projet-là. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Mm-hmm. Là, après ça, est-ce que le projet va se finir un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois plus tard? Bonne question.
Mais à long terme, les perspectives sont quand même optimistes, là, quelque part. Là,
ben, oui, 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 effectivement, mais surtout que quand un investisseur comme ça qui confirme qu'ils veulent aller de l'argent à de l'avant, ben, on comprend qu'ils n'auraient pas sorti l'argent qu'ils ont sorti si c'était pour mettre la clé dans la porte un an après.
Ben, on est déjà rendu à la pause, Donald, alors on va inviter encore nos auditeurs et auditrices à nous contacter, poser vos questions en allant tout simplement sur le site via.fm, onglet Le Parc en 30 minutes. Et en cliquant sur « Poser vos questions », on peut le faire aussi, transmettre vos questions par texto, téléphone 819-519-9050, 819-519-9050. Puis après la pause, on va poursuivre cette discussion, Donald, parce que finalement, on va annoncer que notre invité ne se présentera pas aujourd'hui à notre émission. Donc, un petit impro de Lyon, mais quand même, on aura beaucoup de sujets à parler ensemble après la pause. Donc, on vous invite à nous contacter pour poser vos questions et on vous revient après la pause.
On est avec Janie Montreuil de Sogetel Affaires. Bonjour.
Bonjour, Rosée.
On sait que Sogetel est une entreprise de chez nous, bien implantée dans la région, mais pourquoi c'est un avantage de faire affaire avec vous?
Le service local et notre accompagnement fait toute la différence. On prend le temps d'évaluer chaque dossier avec minutie puisque chaque solution est personnalisée.
Et qui dit entreprise locale dit proximité avec les clients.
Absolument. Notre présence sur le territoire et la proximité avec nos clients nous permettent de mieux comprendre le contexte spécifique de l'entreprise, son secteur, sa taille, ses priorités. On ne propose pas la même solution à une PME qu'à une grande entreprise.
Et au quotidien, c'est quoi l'avantage le plus concret?
C'est la réactivité. Quand une question ou un enjeu survient, le fournisseur local peut intervenir rapidement et efficacement. Au-delà de la technologie elle-même, choisir un service local, c'est s'assurer d'un accompagnement humain, rapide et réellement adapté à sa réalité.
Et pour plus d'informations, on va sur quel site?
Sogetel.com.
Merci, Janie.
Merci, Rosie.
De retour à l'émission Le Parc en 30 minutes avec Marc Rochette.
Et avec mon invité hebdomadaire, c'est Donald Olivier. Donc, très content de t'avoir, Donald, parce qu'on avait un invité prévu aujourd'hui de l'entreprise Innomalt, mais là, on a eu une confusion de son côté au niveau de l'agenda, donc on se reprendra sûrement dans les prochaines semaines.
On va voir ça comme une opportunité de passer plus de temps sur l'actualité.
Oui, parce qu'effectivement, lorsqu'on préparait l'émission, et puis je rappelle qu'on a toujours la collaboration de Marie-Noël Bourque pour préparer ces émissions, donc en préparation d'émission, on voyait combien on avait d'actualité, donc c'est un mal brun bien, comme on dit au Québec, pour nous permettre... d'aller plus loin dans les sujets d'actualité. Tu voulais peut-être revenir sur les dépassements de coûts, Donald.
Oui, oui. Donc, parce que je pense que c'est la cause, là, honnêtement, je n'ai pas la réponse claire, mais je lance des pistes de réflexion. C'est que je pense qu'il y a plusieurs causes, là. Mais tu sais, je vais faire une image, là. Tu sais, mettons, quelqu'un qui se fait un plan de maison, un plan d'usine, on sait tous que si on veut déplacer un mur sur le plan, que c'est beaucoup plus facile avec un crayon ou à l'ordinateur de déplacer le mur. Un support à câble, tu sais, donc il y a plein de câbles dans l'usine, câbles électriques, donc un trait de câble et tout ça. De modifier ça sur un plan, ça se fait bien. Quand tu dois le modifier sur le chantier, c'est beaucoup plus long et coûteux. Fait que donc, où je vais en arriver, il y a un bout de préparation. Tu sais, puis il y a vraiment un bout de préparation que c'est parti très, très vite. Donc, je dis peut-être qu'il y a des trucs qui n'étaient pas clairs et qu'il y a eu des reprises. C'est sûr qu'aussi, je ne peux pas m'empêcher de penser que peut-être que le Québec, comme on n'a pas eu beaucoup de gros projets industriels depuis 10, 15, 20 ans,
exactement.
Ben, c'est peut-être qu'il faut rebâtir cette expérience-là, tu sais, de réaliser ce genre de gros projets-là. Et puis, tu sais, le chapeau fait autant aux entrepreneurs qu'aux ingénieurs. Donc, un client a besoin d'un entrepreneur ou d'entrepreneurs au pluriel et d'ingénieurs singuliers au pluriel. Et puis, je pense que tous ces joueurs-là ont leur bout à faire dans cette réflexion-là parce que vraiment, c'est pas normal d'avoir des dépassements si importants. Et puis, tu sais, c'est comme le bout en amont, hein, tu sais, vraiment en projet. Tout ce que tu fais en amont va te sauver des coûts. Et puis, tu sais, les travailleurs, là, mettons, peut-être qu'il y a des trucs du côté des travailleurs, mais juste qu'on se comprenne bien, ces travailleurs-là arrivent une fois que tout est canné. Ils ne sont pas impliqués dans planification du projet. S'il y a des trucs à défaire et à refaire, c'est pas nécessairement leur enjeu. Peut-être qu'il y a une notion de « Ah, OK, s'il y avait un peu plus de flexibilité, il y aurait peut-être un gain, mais tant qu'à moi, c'est pas significatif. » Et je vais être clair, tu sais, moi, je viens de la région, j'ai des amis qui travaillent là. J'ai clairement des amis qui me disaient « Ben, écoute, oui, ça va bien, mais crème, eux autres même ont des idées pour améliorer des trucs qu'ils voyaient sur le chantier. »
D'accord.
Et donc, on n'est pas dans le mode qu'il y a des travailleurs qui vont là pour se tourner les pouces. Vraiment, moi, je vois des travailleurs qui... même si c'est pas moi qui dirige ce projet-là, ils s'empressent à me dire « Garde ça, on pense que ça aurait pu être fait différemment ou que ça pourrait être fait différemment. » Fait que moi, je vois vraiment des travailleurs en mode solution. Et puis, il y a une partie qui est remobilisée, puis graduellement, ils remobilisent d'autres. Fait que tu sais, c'est comme un petit bout sur les dépassements de coûts que j'ai pas de réponse officielle, mais c'est probablement multicritère, ces dépassements de coûts-là.
Dans les derniers jours, évidemment, on a eu droit à un budget provincial qui comptait quand même des mesures intéressantes pour les minéraux critiques, pour les projets industriels. Donc, tu accueilles ça, j'imagine, favorablement comme PDG. Là.
Oui, écoute, c'est la première fois que j'allais là à Québec pour la...
Ah, t'étais sur place?
Oui,
ah,
okay. J'étais sur place. C'est quand même toute qu'une expérience là, d'assister à tout ça.
T'avais-tu assisté au huis clos ou seulement après?
Non,
ou...
seulement après. Mais mettons, pour les gens comme moi avant qui ne sont jamais allés là, ben, t'es ce qui se fait en chambre. Mais par la suite, tous les ministres, leur cabinet, il y a comme une rencontre. On peut leur parler après. C'est quand même costaud. Il y avait beaucoup de trafic. Mais il y a plusieurs choses dans le budget. Mais c'est sûr que ça, j'ai trouvé ça intéressant. Le milliard. Donc, c'est un milliard pour les minéraux critiques. L'extraction, mais la transformation aussi. Fait que c'est vraiment pas... Tu sais, on parle pas de filière batterie parce qu'on veut pas se limiter à la filière batterie. Non. Fait que moi, je trouve ça bien parfait. Et puis, mais on vient réitérer que les minéraux critiques, c'est de quoi qu'on a de besoin. Et puis, il y a de quoi aussi, c'est une petite ligne qui est mentionnée dans le document qui a été remis. Mais tu sais, souvent, les gens vont entendre des prêts paritaires ou des trucs comme ça. Mais là, ce qui est rajouté, ce que le gouvernement du Québec se donne comme outil de plus, c'est un peu similaire à ce que le fédéral a déjà. Mais on appelle ça une possibilité d'avoir un approvisionnement à long terme, une offre d'approvisionnement à long terme. Donc, en anglais, ils appellent ça un off-take. Donc, Nouveau Monde Graphite ont un peu ça avec le fédéral. Ça veut dire que le fédéral garantit qu'ils vont acheter une portion de leur production à un prix prédéterminé. Donc, le provincial se donne ce genre d'outil-là. Puis, ce que ça fait pour un investisseur, ça vient carrément gérer ton risque. Fait que donc, admettons, ton risque, c'est de « OK, mon projet, je veux le lancer, mais je sais déjà que j'ai 20, 30, 40, 50 % de ma production de garantie. Il y a quelqu'un qui est prêt à l'acheter et j'ai un prix. » Fait que ça, c'est un outil de plus qui n'était pas là avant. Donc, comment le gouvernement va l'utiliser, cet outil-là? Bonne question, mais c'est quand même intéressant.
Parce qu'on disait que c'est bon, c'est évidemment un dernier budget avant les élections, mais quand même, bon, il n'y avait pas des grands coups d'éclat, ce qu'on appelle des bonbons électoraux, mais quand même, il y avait des choses intéressantes, pas mal intéressantes de cet ordre-là.
Oui, puis un autre élément que moi j'ai trouvé intéressant, parce qu'on travaille quand même avec les Premières Nations, le Wabanaki ici, et puis il y a un 500 millions qui est mis à la disposition des Premières Nations pour soutenir des initiatives économiques. Il y a une initiative économique, que ce soit les Wabanaki ou une autre communauté, une autre nation au Québec, mais ils ont accès à ces fonds-là pour être capables d'être partie prenante. Tu sais, parce que la fameuse réconciliation avec les Premières Nations, c'est une chose, mais à un moment donné, dans certaines activités, j'ai compris que ça passait beaucoup par la réconciliation économique.
Ouais.
Et puis de trouver une place aux Premières Nations dans des initiatives économiques porteuses pour eux, porteuses pour le Québec, c'est intéressant. Et là, il y a un 500 millions qui est disponible. Fait que ça, c'est vraiment nouveau. Puis moi, en tout cas, quand je regardais tout ce qu'on discute avec eux, j'ai dit « Oh, OK, ça vient vraiment ajouter de quoi qu'on n'avait pas avant puis que ça devrait faciliter la création de projets qui les impliquent. »
Autre sujet d'actualité, projet portuaire, décision de l'Agence fédérale d'évaluation des impacts.
Oui, donc c'est sorti, nous on le savait depuis février, mais c'est sorti dans les médias récemment. Et puis en gros, il faut que les gens comprennent que le gouvernement fédéral, pour déclencher une étude d'impact, ils ont certains critères. Et puis, si tu déclenches l'ensemble des critères, ben, tu dois faire une étude d'impact.
Mm-hmm.
Si tu ne déclenches pas l'ensemble des critères, tu n'as pas besoin d'en faire. Fait que donc, c'est pas du lobby politique, là. C'est carrément des fonctionnaires qui analysent ton dossier puis qui arrivent à la conclusion que tu déclenches ou pas. Je ne suis pas le meilleur pour aller dans le détail des critères. Non, non. Karine serait meilleure que moi chez nous. Mais c'est un peu ça. Mais il faut voir qu'on ne sera pas épargné d'une étude d'impact. Il va falloir en faire une, okay. Mais au provincial. C'est quand même intéressant de voir que, je ne sais pas si c'est un arrimage un peu plus, parce que ça aurait pu arriver qu'on doive faire une étude d'impact au fédéral, puis en parallèle, une étude d'impact au provincial.
Un doublement.
Oui, c'est que là, la bonne nouvelle pour nous, c'est que, bon, OK, gros bon sens triomphe, là, on va en faire une et non deux.
Mm-hmm, mm-hmm.
Donc, ça c'est positif. Ça amène pas nécessairement le fait que le fédéral nous dise qu'on n'a pas besoin de faire d'études d'impact. C'est pas nécessairement un gain sur le projet en échéancier, parce qu'il faut quand même en faire une au niveau provincial.
D'accord. Et aussi, au cours des derniers jours, on a appris un projet de panneau solaire à Bécancour.
Oui, ben il faut comprendre que mettons, je ne sais pas le citoyen normal comment il a vu ça arriver, ces dossiers-là, mais depuis à peu près, je pense au printemps passé, qu'Hydro-Québec a lancé un appel d'offres. Donc, comme ils ont pu faire pour de l'éolien, donc de dire, OK, on a besoin de tant de mégawatts, on veut recevoir des offres, là, ils l'ont fait, c'est la première fois qu'ils le font pour du solaire. Fait que le processus en cours, c'est qu'Hydro-Québec demande des propositions pour aller chercher 300 MW d'énergie solaire. Et puis 300 MW, juste pour comprendre, là, pour un citoyen, là, bon, je m'occupais des centrales à la rivière Saint-Maurice avant. Fait qu'une centrale, en gros, sur la rivière Saint-Maurice, là, les centrales de Shawinigan, Latuc, Rapide Blanc, tout ça, c'est de l'ordre de 200 MW.
Mm-hmm.
C'est comme l'équivalent, un peu plus que l'équivalent d'une centrale hydroélectrique de la rivière Saint-Maurice. Qui serait disponible pour le Québec via plusieurs projets solaires. Puis effectivement, il y a quelques projets qui risquent d'émerger sur le territoire de la SPIB.
Fort intéressant. Donc, quand même, on a fait un bon tour d'actualité des derniers jours, des dernières semaines. Beaucoup d'actions.
Oui.
Donc, le printemps s'annonce quand même assez intéressant de ton côté, du côté de la SPIB.
Oui, il y a des choses à surveiller. Puis pour revenir sur les projets solaires, il faut voir que Hydro-Québec se donne un an pour les analyser.
Okay.
Fait que donc, on en parle aujourd'hui, mais s'il y a 20 ou 50 ou 100 offres qu'Hydro-Québec reçoit, il ne s'engage pas à donner un retour en mois. Là. C'est,
mm-hmm.
Selon moi, ça va être janvier, février, l'an prochain. Fait qu'on on risque d'avoir plein de rumeurs, plein de trucs qui se disent là-dessus, mais clairement, c'est à ce moment-là que ça va se prendre. Puis dans l'article, je voyais un article de journaux qui disait, bon, OK, c'est pour les entreprises industrielles, mais c'est pas nécessairement pour les entreprises mm-hmm. industrielles. Parce qu'une entreprise, un parc industriel comme Bécancour, là, dites-vous que la demande énergétique, elle est constante. Donc, si le soleil baisse, le procédé industriel doit aller de l'avant quand même. Mais c'est vrai qu'on pourrait consommer cette énergie-là puis rediriger l'énergie des barrages ailleurs. Ça fait donc, c'est intéressant. Fait que, à suivre, voir ce qui pourra émerger vraiment au niveau salaire sur le plan.
Puis du côté de la SPIB, pour l'été qui vient, est-ce qu'il y a d'autres travaux d'infrastructure planifiés? On a pas mal fait ce qu'il y avait à faire.
C'est vraiment le port sur lequel on focus.
Oui,
hein, vraiment le port qu'on travaille très fort, être capable de commencer des travaux en septembre. Justement, on va pré-approuver, le conseil d'administration nous pré-approuve, même si on sait qu'on a 328 millions, je dois retourner chercher une approbation pour libérer les budgets. On pense qu'on va avoir besoin d'une trentaine de millions pour l'année 2026. Fait que donc, une trentaine de millions, il faut voir qu'il y aura quand même des travaux civils qui vont commencer au port, mais évidemment, pas les travaux en eau. Les travaux en eau dans le fleuve, ben, c'est eux qui déclenchent une étude d'impact et on ne peut pas les commencer tant qu'on n'a pas réalisé tout ça.
Eh bien, Donald, à défaut d'avoir eu notre invité, ça me rappelait nos bons vieux souvenirs de nos premières émissions, toi et moi. On était seuls en studio et ça s'est bien passé.
On peut dire qu'on a fait preuve d'adaptation, là, combler
flexibilité et adaptation. Donc, non, vraiment, c'était fort intéressant, tous les sujets qu'on a traités. Puis ça nous a donné le temps de traiter chacun de ces sujets-là. Donc, merci beaucoup, Donald, encore ta disponibilité cette semaine. Et la semaine prochaine, si on est plus chanceux, on aura une invitée en studio. Ce sera Nancy Desiel, directrice générale du Centre national en électrochimie et en technologie environnementale. On connaît mieux cette entreprise-là et cette institution-là sous le terme de CNET. Alors, on verra avec Nancy, qu'est-ce que le CNET? Et on aura toute la demi-heure avec Nancy pour parler de aussi son implication, son lien avec le parc industriel, etc. Donc, c'est à ne pas manquer la semaine prochaine, donc une émission en direct avec Nancy Desiel et évidemment Donald Ledvier, PDG de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. Alors, merci Donald encore et on souhaite à tous et à toutes bonne semaine. Et n'hésitez pas à nous contacter. Profitez de cette belle occasion de poser vos questions en allant sur le site via .fm, onglet Le Parc en 30 minutes. Posez vos questions, 819-519-9050. C'est Marc Rochette qui vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine pour Le Parc en 30 minutes.